d'Europe 1.
Dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h, vos grandes voix avec ce soir à mes côtés Philippe Gouillot, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue correspondant de l'AFP et du Figaro à l'Élysée, une autre actualité que je délivre dans un instant. Bonsoir Laetitia Krupa.
Bonsoir.
Bienvenue spécialiste communication politique et également Mickaël Darmon, bien sûr.
Bonsoir.
D'Europe 1 avec nous, bonsoir à vous et bienvenue. Vous restez avec moi, on débat, on discute, on parle chômage entre autres dans un instant.
Bien manger, démêlons le vrai du faux avec Éric Lemaire, président d'AXA Prévention et ses invités, Karine Lemarchand et le docteur Salman.
Internet est une mine d'informations dont il faut vérifier les sources, surtout quand elles concernent notre santé. Avec AXA Prévention, nous nous attaquons à ces idées reçues. Aujourd'hui, le sucre. Karine, on dit souvent que le sucre redonne rapidement de l'énergie.
Ah bah oui, moi quand je cours, je mange du sucre avant et je vois bien quand même qu'il y a un avant et un après. Sinon d'ailleurs, je frôlerais l'hypoglycémie. C'est bon le sucre quand on fait des efforts, docteur ?
Le sucre, c'est bien, mais c'est une question de quantité. Est-ce que vous savez qu'un enfant de 7 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie ?
Oh !
Alors, je vous donne un petit truc pour vous libérer du sucre. Pendant 3 semaines, arrêtez de mettre du sucre ou des édulcorants dans votre café ou votre thé. 3 semaines plus tard, quand quelqu'un vous remettra du sucre, vous ne pouvez plus le boire, vous trouvez ça écœurant.
Alors, arrêtons de sucrer café et yaourt. Merci à vous deux. Et si vous avez une autre question, posez-la à notre expert sur Intox Détox, notre service gratuit de décodage sur axaprévention.fr.
Votre grand journal du soir avec les grandes voix. Ce soir, Laetitia Krupa, Mickaël Darmon et Philippe Gouliot. C'est parti parce qu'on va parler chômage, notamment avec des chiffres. Il s'agit de les commenter et de lire entre les lignes, n'est-ce pas ? Les chiffres du chômage, toujours. D'abord, ce livre, je voudrais le présenter à la caméra qui se trouve là. C'est pas comme à la télé, c'est sur le côté. C'est votre dernier ouvrage, Les photos insolites de Charles de Gaulle, signé Philippe Gouliot, Caroline Pigodi. C'est aux éditions Plon. Il faut absolument se le procurer. Je le montre parce que vous êtes à mes côtés, mais je l'aurais montré même si vous n'aviez pas été là, Philippe.
C'est gentil, oui. C'est un livre que nous venons de terminer, oui. Enfin, il y a quelque temps, et qui paraît là ces jours-ci.
Avec des pépites, évidemment, vous avez croisé, vous, le général, à deux reprises, donc vous avez
oui,
été au plus près.
Petit, quand même,
petit,
je l'avoue.
Évidemment. Voilà, donc à se procurer, absolument. Les chiffres du chômage, on les a, le gouvernement se réjouit, parce qu'il continue de décroître lentement mais sûrement au troisième trimestre en France. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a diminué de 0,4% pour s'établir à plus de 3 millions de personnes quand même. On est à 3,6. C'est une vraie bonne nouvelle ?
Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est quand même le sort de personnes physiques qui vont avoir du travail et pour qui la vie va être plus facile. Mais évidemment, il faut regarder derrière tous ces chiffres. D'abord, en général, les chiffres sont toujours contestés. Il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais c'est pas
lectures,
comme ça.
En tout cas.
Il y a toujours plusieurs lectures possibles. Et puis, effectivement, on voit dans le détail que pour les jeunes, ça ne s'améliore pas. Et puis, de toute façon, c'est une baisse très, très, très légère. Alors, il va y avoir aussi quand même l'effet, sans doute, mécanique de la réforme de l'assurance chômage. Et ça, c'est une autre histoire.
C'est ce que j'allais dire. C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça va se crisper quand même.
Hein,
à partir du 1er novembre, là, la réforme va durcir l'ouverture des droits. Aussi pour le rechargement, ça va être des conditions beaucoup plus drastiques. Donc là, la contestation sociale peut effectivement reprendre un petit peu le dessus et la colère à nouveau s'entendre et se faire entendre. Et au 1er avril, il y a encore d'autres mesures qui arrivent. Donc bon, c'est une bonne nouvelle.
Donc,
temporaire.
Hein. Voilà, très temporaire. Réforme de l'assurance chômage, évidemment. Là, on la craint. Ça peut être explosif, on le sait.
En tout cas, c'est la raison pour laquelle
Darmon.
Tout le gouvernement est tétanisé. C'est pourquoi ces chiffres vont mettre un peu de baume au cœur, effectivement, à l'exécutif. Parce qu'en coulisses, ce qui se dit maintenant au sommet de l'État, c'est que l'acte 2 est à l'arrêt, qu'il n'y a pas de réformes qui, aujourd'hui, sont en dynamique. Tout le monde est tétanisé en attendant comment décembre va se passer. Dans tous les départements, dans tous les ministères, hein, puisque la réforme des retraites concerne l'ensemble vraiment de tous les corps sociaux. De ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle en affichage. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi maintenant les études qui commencent de sortir sur le mi-mandat. Hein, les sondages arrivent sur le mi-mandat.
Alors,
les Français restent,
les deux tiers.
Mécontents.
Vous avez raison, les deux tiers des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. On est à mi-mandat, 65%. C'est plus, c'est 7 points de plus, c'est pas rien. Hein. C'est 7 points de plus que lors de la dernière enquête qui date d'avril dernier.
Et qui correspond au nouveau baromètre
exactement.
Qui a été installé par Fondapol et le Figaro sur le vote protestataire. Donc on voit bien qu'il y a un croisement des comportements et des attitudes. Le plus impressionnant de cette étude, c'est la dernière question, la question peut-il rassembler ? il arrive, c'est en bas de tableau, hein, et c'est pour l'instant un président qui, lui, est en train de construire un rassemblement contre un potentiel ou potentielle candidate populiste. Et pour l'instant, ce n'est pas gagné.
Voilà. Donc, cette baisse à mi-mandat, Philippe Gouillot, on voit bien la réforme des retraites. Il ne s'agit que de cela. On ne parle que de cela. On voit bien, effectivement, ce que ça peut peser, dans quelle mesure ça peut peser. Des mécontents de plus en plus nombreux. Du coup, les chiffres du chômage, ils paraissent complètement insipides. Emmanuel Macron, il est bloqué, il est coincé aux entournures.
Ben, il faut qu'il réforme, en fait. On l'attend là-dessus, quand même. Et donc, ce qui est amusant, c'est que finalement, d'une certaine manière, avec cette baisse du chômage, Emmanuel Macron tient les promesses de François Hollande. Mais non, je veux dire que en politique, les choses ne se passent jamais comme on les attend. Souvenons-nous, il y a un an précisément, on n'était pas encore entré dans la crise des Gilets jaunes. On attendait le début des premières manifestations de Gilets jaunes. Et finalement, les choses se sont passées d'une façon totalement inattendu. Il faut toujours avoir ça en tête. Emmanuel Macron, je le répète, a été élu pour réformer. Il faut qu'il réforme. Alors, c'est difficile. Il va effectivement cristalliser toutes les oppositions. Il faut qu'il ait le courage de s'y tenir et puis de savoir aussi lâcher du lest, parce que c'est quand même ça.
On va y revenir dans un petit instant. Laetitia Krupa, je vous donne la parole, les auditeurs aussi, parce qu'il a réformé au pas de course en début de mandat. Ça lui a été peut-être tôt, ça lui a été beaucoup reproché. Donc voilà, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui? On s'en reparle dans une seconde, les grandes voix, n'est-ce pas? Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h en direct avec nos grandes voix dans ce studio. Michaël Darmon, Laetitia Krupa et Philippe Gouillot avec ce livre, Les photos insolites de Charles de Gaulle, signé Philippe et Caroline Pigodi aux éditions Ronde Plon. Je le mentionne parce qu'il faut évidemment l'avoir dans sa bibliothèque, voire sur son bureau.
Merci beaucoup.
Et nos auditeurs aussi qui nous contactent au 39 21 ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Bonsoir Alain, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous nous appelez depuis la région parisienne. On parlait à la fois du sondage pour Emmanuel Macron, les deux tiers des Français mécontents de l'action du président à mi-mandat et puis des chiffres du chômage qui continuent de décroître. Mais finalement, c'est un épiphénomène, j'allais dire, compte tenu des attentes qui ne sont pas comblées pour les Français. Qu'est-ce que vous en dites ?
Mais mon premier constat, c'est que au fond, il y a du travail en France. Parce que non seulement le chômage baisse, mais en plus, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Donc, de ce point de vue-là, la politique de l'offre qui a été menée en début de mandat semble porter ses fruits. Alors, le problème, et c'est ça qui m'inquiète, et je rejoins le commentaire qui a été fait il y a quelques instants par les grandes voix, c'est que ce n'est qu'une partie du programme de réforme. Et donc, rappelons aussi, puisqu'on parlait du général de Gaulle, que de Gaulle a souvent réformé un petit peu contre la volonté des Français, qui sont un peu réfractaires à la réforme. Or, il faut poursuivre dans le sens de la baisse des dépenses publiques, qui permettra de baisser aussi les impôts. Il faut continuer la réforme des retraites. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que le chemin de M. Macron est assez étroit, finalement.
Étroit et semé d'embûches. Hein. Retraite, immigration, bioéthique, il y a encore des sujets extrêmement brûlants. Merci beaucoup, Alain, de votre appel. C'est compliqué, parce que le chantier des retraites, typiquement, c'est un boulet financier pour Emmanuel Macron. Les réformes sociales et fiscales, tout est terminé.
Enfin, la réforme du chômage, c'est pour justement réduire la dette et renflouer les caisses. Hein. Si on
lit
toutes les analyses, normalement, ça devrait être plutôt positif. Et l'objectif de Macron, là, à la fin du quinquennat, c'est un chômage à 7%. Alors, vous parliez de François Hollande. Lui, il a eu quand même la bonne idée de ne pas conditionner sa nouvelle candidature à la prochaine présidentielle à ce chiffre-là.
Ce chiffre
on se rappelle de la courbe du chômage de François Hollande. Mais voilà, on ne peut pas dire que là, pour l'instant, c'est quand même, en tout cas, l'objectif de cette réforme est quand même de renflouer les caisses.
Michael Darmon,
vous dites, que Emmanuel Macron a la trouille. Mais
non, j'interroge.
Oui, mais est-ce qu'il n'a pas raison d'avoir la trouille? Parce que finalement, il est devant un Himalaya, et l'Himalaya, ça ne s'escalade pas en tongs. Il faut être équipé pour ça. Et peut-être qu'au début du quinquennat, il a pêché par excès de confiance.
C'est ça.
Donc
peut-être qu'un peu plus
de prudence. Et faire un peu ce que parfois ses prédécesseurs ont
fait. Il est allé au pas de course en début de mandat, comme disait François Mitterrand, il faut laisser du temps au temps maintenant. On voit que
ils ont surtout en tête, puisque c'est l'argument qui est distribué depuis quelque temps, que régler le chômage ne règle pas tout. Souvenez-vous de Jospin, qui avait quand même un bon bilan économique et qui a été éliminé au premier tour de la campagne présidentielle. Or, c'est intéressant parce que c'est exactement la peur actuellement au sein de l'exécutif, puisque l'argument qui est un peu distribué quand on les rencontre en ce moment à divers degrés de l'État, c'est qu'il ne faudra pas se laisser jospiniser, c'est-à-dire penser que uniquement des bons résultats économiques, sans trop s'occuper du régalien, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'en occupe, sera donc au rendez-vous de la présidentielle. Donc le chômage qui baisse, c'est très bien. On attend d'ailleurs de voir si jamais cette crise économique qu'on nous prédit va arriver ou pas au niveau mondial. Mais la baisse du chômage ne fera pas forcément un quinquennat réussi.
Alors, j'ai un bon bilan, ça n'a jamais assuré une réélection.
Absolument.
Voilà. L'autre grand sujet, évidemment, que Emmanuel Macron a abordé depuis la réunion, c'est évidemment la polémique depuis 15 jours maintenant sur le voile. Pas un jour sans évidemment que les commentaires fusent et voir que les débats s'amoncellent sur le sujet. Alors, quand il s'agit de parler du voile à la réunion, Emmanuel Macron ferme le banc en quelque sorte. En tout cas, il dit non, ce n'est pas de mon ressort.
Bah oui, mais ils disent que ce qu'Édouard Philippe a déjà dit dans l'hémicycle, si vous l'avez bien écouté, il a dit, voilà, porter le voile pour celles qui accompagnent les sorties scolaires, comme c'est en dehors de l'école, c'est permis.
Sauf
c'est
qu'il y a une attente. Ouais, sauf que...
Et Macron dit, en dehors de l'espace. Oui, mais dit de service public, ce n'est pas mon affaire. Et
sauf
c'est ça,
que,
la laïcité.
Sauf qu'aujourd'hui, Mickaël Darmon, Philippe Bouilleux, Laetitia Krupa, il y a une attente de la voix du président de la République.
Oui, il y a une attente. Alors,
on peut pas se...
Là aussi, peut-être qu'au fond, il a pas eu tort de prendre son temps pour s'exprimer. Il ne faut pas réagir sous la contrainte et sous la pression des médias.
Enfin, on voit bien qu'il repousse systématiquement.
Mais maintenant, effectivement, là, je crois qu'il ne peut plus tarder à s'exprimer et à faire un discours qui montre la voie. Je ne pense pas qu'il espérait fermer le banc, parce que le débat est beaucoup trop profond dans la société française sur ce sujet, beaucoup trop clivant. Et n'oublions pas qu'on est à l'approche des municipales et que ces thèmes-là rejaillissent toujours à ce moment-là.
Selon le Canard enchaîné, il prendra la parole à la mi-novembre. C'est lui qui le dit. Donc, de toute façon, on aura une parole un peu plus complète, exhaustive. Là, pour l'instant, c'était juste sur cette polémique du voile qui lui a un peu hérissé le poil. Parce qu'elle a été, déclenchée par un député du
Julien Odoul,
Rassemblement national, et que tout le monde a parlé trop vite. Donc voilà, il a effectivement pris la parole, mais il la prendra en longueur à la mi-novembre.
Mickaël Darmon ?
D'abord, il applique.
Il ne peut pas le faire de toute façon, effectivement, depuis la Réunion. On n'attendait pas ça.
Non, même si dans ce déplacement Mayotte-Réunion, il a scénographié les problèmes nationaux entre l'immigration à Mayotte et le social à la Réunion. Il s'est remis aussi dans sa martingale. En faisant cette phrase qui ne clôt pas du tout le débat, parce que quand il dit le voile n'a pas sa place à l'école, qu'est-ce qu'une sortie scolaire avec le professeur ? Est-ce qu'on est dans l'école ou pas ? Ou le professeur ? Il n'a pas dit ça. Non, il a dit le voile n'a pas sa place à l'école. La question, c'est est-ce que lorsqu'on va au Louvre avec la classe, est-ce qu'on est dans l'école ou pas ?
J'ai compris que non.
Mais c'est pas clair.
Surtout, il pose le principe, il réaffirme son principe, l'État est laïque et la société ne l'est pas. C'est ça. Il continue à creuser, effectivement, ce sillon.
On y revient dans un instant, parce qu'on voit bien que ce sujet n'est pas clair, n'est pas éclairci, en tout cas, pour les Français. On y revient dans un instant avec vous, les Grandes Voix, le grand journal, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h en direct. Votre grand journal du soir en direct jusqu'à 20h sur Europe 1 avec les Grandes Voix pour cette dernière partie ensemble et sur cette polémique toujours et encore autour du voile et la sortie d'Emmanuel Macron depuis la Réunion, estimant que ce n'était pas son affaire. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire, a tranché le chef de l'État. Et les réactions n'ont pas tardé à fuser, notamment du côté du Rassemblement National. Je voudrais qu'on donne la parole, si vous le voulez bien, à Mickaël Darmon, Laetitia Krupa, Philippe Bouilleux, à Jeanne qui nous appelle ce soir au 39-21. Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir les Grandes Voix.
Bonsoir.
J'ai bien entendu M. Macron et je suis assez d'accord que son problème soit la laïcité et non pas l'espace public, mais j'ai un avis beaucoup plus nuancé concernant les sorties scolaires. Lorsqu'un enseignant a besoin d'un accompagnateur pour une sortie scolaire et qu'il s'adresse à une personne voilée, eh bien, je ne lui donne pas le droit de demander à cette personne de retirer son voile, si c'est lui qui demande. Si c'est la personne qui se propose, c'est autre chose, on peut discuter et l'enseignant peut refuser. Et sinon, il s'adresse à une personne non voilée. Je vous parle par expérience, puisque j'étais enseignante et que j'ai été confrontée à cette situation. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un qui va nous rendre
service. Une maman d'enlever son voile si elle se propose spontanément. C'est quand même la limite, merci beaucoup Jeanne, de votre appel au 3921. C'est quand même la limite de l'exercice, la limite de sur ce sujet. On voit bien bien, on voit bien comment régler. C'est tellement subtil, c'est tellement du cas par cas, en quelque sorte, Philippe Bouliot.
Mais je pense qu'il faut quand même faire preuve d'un peu de réalisme. Il y a des tas d'écoles, si on n'accepte pas les accompagnantes voilées,
il n'y aura
scolaire. Pas de sortie scolaire.
C'est ça.
Et moi, ce qui me frappe dans toute cette histoire, c'est que quand j'étais enfant, c'est un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître, quand j'étais enfant, on ne parlait pas des problèmes de religion du tout. Moi, dans ma classe, j'avais des enfants qui étaient catholiques, c'était une majorité parce qu'à l'époque, c'était quand même ça. Il y avait des juifs, il y avait peut-être des musulmans. On s'en fichait et ce n'était pas un critère.
Mais
et
ça fait quand même 30 ans, pardonnez-moi, vous étiez enfant il y a très très longtemps, parce que ça fait
très,
quand
très
même 30 ans.
Oui, mais, non, mais les choses ont beaucoup changé. je trouve que c'est dommage parce que c'était pas mal quand même.
Oui, Michel Darmon. On n'est pas uniquement sur du réglementaire et du législatif. On est quand même sur, et je reprends un peu les mots, moi j'ai lu aujourd'hui cette très belle tribune de Claude Habib dans le Figaro, qui est professeur à la Sorbonne, on est quand même dans la question, est-ce qu'on continue à perpétuer ce bonheur d'être français à travers ce qu'on appelle la galanterie. La galanterie n'accepte pas le voile. On est dans une logique de relation homme-femme qui est une sorte d'amitié libre, un peu jouée, un peu érotisée parfois, ce qu'on appelle la galanterie. Les pays musulmans la combattent. Le modèle anglo-saxon ne le comprend pas, puisque dès qu'on s'approche de quelqu'un, on est en procès. Et cela, quelque part, c'est une manière d'être isolé, d'avoir peut-être une forme de spécificité ou d'exception française.
Oui.
De ce point de vue-là. Donc, la crispation sur le voile questionne également sur quel est le fondement de notre relation entre hommes et femmes en France.
Mais aggloméré, pardonnez-moi aujourd'hui, Michael, mais aux questions d'immigration, aggloméré au terrorisme, à la menace terroriste,
c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a été très clair. Il a parlé de communautarisme et je pense qu'effectivement, cette question du voile, peut-être qu'il faut en parler, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que pour moi, elle est secondaire. Pardon, le plus important, c'est quand le voile est un outil pour l'islam politique et le communautarisme a lieu dans nos banlieues. C'est ici qu'il faut commencer. L'État laisse faire depuis 30 ans. Et à un moment, il va falloir aller au cœur du problème, le régler, et ensuite on discutera de ces sorties scolaires.
Mais il faut aussi avoir à l'esprit qu'on ne peut pas non plus, et c'est notre responsabilité, hein, nous devant des micros ou des caméras, d'hystériser un débat qui au fond ne parle pas à l'ensemble des citoyens français, qu'ils soient de confession musulmane, juive, chrétienne. Globalement, dans ce pays, même s'il y a des tensions, dans les moments très compliqués, on a bien vu que tous ceux qui voulaient que ça éclate ont échoué.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi, évidemment, pré-duel qui s'installe en vue de la présidentielle, même si on y est encore très loin, où on voit bien que ces sujets vont être...
Politique
voilà, c'est ça. Et certains médias qui...
les médias font le travail de médias. Moi, je culpabilise jamais le travail des médias.
Non, mais c'est bien de se regarder aussi.
On parle de ce qui se passe.
C'est pas bien de se regarder
Nathalie, on parle de ce qui se passe, bien évidemment. Après, c'est la question comment on en parle. Mais parler de ce qui se passe, ça doit jamais être
interdit. Oui, mais il faut peut-être aussi parler de plus. C'est pour ça que je parle des banlieues et je parle du travail que l'État doit faire dans des zones de non-droit. On a acheté une paix sociale et c'est faux, c'est pas du tout une paix sociale. On a créé un climat explosif. Alors, jusqu'à quand on va être hypocrite et jusqu'à quand on va se dire qu'on a acheté la paix sociale ? C'est faux.
Voilà. Ça c'est dit. Et donc,
on met les choses sur le tapis.
L'idée, c'est donc de faire de la pédagogie, de ne pas hystériser, d'en débattre cordialement et intelligemment. Mais on voit bien que de l'immigration au voile, il n'y a qu'un pas. Et que le débat, de toute façon, pour la présidentielle, malgré tout, il sera là.
L'enjeu est de retrouver la technicité du terme immigration. C'est un mot tellement chargé, tellement explosif en France par rapport à d'autres pays. Alors que oui, c'est un sujet qu'il faut regarder, mais sans penser qu'à chaque fois, le fascisme est à nos portes ou le laxisme l'emporte.
Merci à vous.
Merci.
C'est toujours évidemment un super rendez-vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir autour de cette table. Pardon ?
Partager.
Ah bon, ça va alors. Merci Michael Darmon, Laetitia Crépa et Philippe Gouliot avec les photos insolites de Charles de Gaulle, évidemment, aux éditions Grund et Plomb. Merci à tous les trois. Europe 1.